Bonjour de Gilbert, eh bien, j'étais ravi d'écouter l'émission sur Hélène Keller, tout au moins la première partie. Je ne savais pas du tout qu'Hélène Keller avait des engagements progressistes et politiques. Tiens. Et il faut dire que c'est pas l'association Valentin lui qui va développer, qui va parler de ses engagements politiques. Hein. Moi, je suis moi-même aveugle. Peut-être le JPA, qui est également une association progressiste pour aveugles, qui est à Paris, voilà. Rue Gambetta à Paris, le JPA, PGIPA, voilà, qui est une association progressiste pour aveugles. Peut-être sont-ils au courant de ça, parce que c'est la gauche. Voilà, mais Valentin, lui, non, je ne savais pas du tout que c'était cette femme avait des engagements politiques. Voilà, je suis ravi de l'apprendre.
La science a peut-être trouvé un remède pour la plupart des maux, mais elle n'en a pas trouvé pour le pire de tous. L'apathie des êtres humains. Hélène Keller, My Religion, 1927.
Bonjour Monsieur Mermet, j'écoute votre émission là sur Hélène Keller Story, enfin le film. Il me semble d'avoir entendu que vous avez dit que le film de 62 a été réalisé par Sean Penn. En fait, je crois que vous êtes trompé, le film a été réalisé par Arthur Penn, qui 5 ans plus tard allait faire Bonnie and Clyde. Et Arthur Penn n'a rien à voir, je crois, avec Sean Penn, puisque le père de ce dernier est Léo Penn et non pas Arthur. Voilà. Et pour la petite histoire, les deux actrices qui ont incarné Anne Sullivan et Hélène Keller ont eu toutes les deux un Oscar en 62. Meilleure actrice, Anne Bancroft, et meilleur second rôle, je crois, Patty Duke. Voilà. Merci, bonne émission, et merci encore pour toutes ces émissions. C'était Lionel d'Albi.
Et vous savez quelle maladie? Vous connaissez le nom de votre maladie? Votre maladie.
Ah. J'écris sur la paume de la main d'Annie.
Ma maladie. Alors, je suis atteinte du syndrome de Char, de type 2. C'est une maladie génétique. Le syndrome de Char touche une grande partie des personnes sourdes aveugles. Tandis que pour mon mari, c'est un accident de circulation qu'il a eu peu avant ses 18 ans.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que je suis avec Inès Léraud, Hélène Keller et la surdicécité.
Hélène Keller, fille aînée du major Arthur Keller, est née en 1880 à Tuscumbia, comté de Colbert, dans l'Alabama.
Alors Hélène Keller, c'est une petite fille qui a grandi de manière parfaitement normale jusqu'à ce qu'à l'âge de 18 ou 19 mois, une maladie la frappe et qu'elle devienne sourde aveugle.
Grâce à Anne Sullivan, elle avait imaginé un langage tactile de signes dessinés sur la paume de la main.
Une photo d'Hélène Keller qui serre la main de Winston Churchill.
Et puis comme c'était une petite fille très très intelligente, elle va apprendre très vite, ensuite le braille, et elle ira à l'université et sera la première femme diplômée handicapée au monde.
Une photo d'Hélène Keller parlant à John Kennedy.
Beaucoup d'États-Unis aussi ne connaissent pas la vie politique d'Hélène Keller.
Hélène Keller serrant la main du président Eisenhower.
Oui, elle était membre actif du National Women Party, le Parti national des femmes, qui était à la pointe de cette mobilisation dans les États-Unis.
Elle était sourde, aveugle et muette depuis ses 19 mois, Anne Sullivan et Hélène Keller. Après sa deuxième leçon, elle était capable de dire la phrase mot par mot.
I am not dumb.
Dumb.
Now.
No.
Je ne suis plus muette maintenant.
It is not blindness or deafness that brings me my death. Others, it is the abuse that I put men in not being able to speak normally.
La voix d'Hélène Keller. I am not dumb now. Je ne suis plus muette maintenant. Miracle, miracle formidable, miracle en Alabama, miracle dû en grande partie à celle qui a été sa préceptrice, son institutrice, Anne Mansfield Sullivan. Cette éducatrice, jeune éducatrice, lorsqu'elle rencontre Hélène Keller en 1887, donc Hélène Keller a 7 ans, et qui va réussir à inventer avec elle, elles vont inventer ce langage qui va permettre à Hélène Keller de sortir de sa nuit, de son obscurité. Non pas qu'elle va voir, mais qu'elle va comprendre. Et c'est ça les Lumières. Quand on dit le siècle des Lumières, c'est comprendre, c'est sentir, c'est être présent au monde. Ce qui nous touche évidemment au plus profond dans cette vie-là, celle d'Hélène Keller, c'est que vivre, c'est vivre un manque, c'est vivre des manques, vivre c'est manquer. Et c'est ça qui fait écho à ceux qui se considèrent comme non handicapés ou normaux. Et non, on est tous handicapés. Qui peut prétendre être normal? Qui a inventé cette normalité par rapport à une anormalité ou à une non-normalité? C'est une certaine moralité et peut-être aussi une immoralité ou une amoralité que produit l'esprit et que parfois le corps produit à travers ses handicaps. Vivre, c'est manquer, et compenser ce manque, c'est vivre aussi, c'est penser, c'est agir, c'est être présent, c'est lutter. Et Hélène Keller luttait. Voilà ce qui nous trouble et qui nous étonne et qui crée entre le différent et le normal cette étonnante résonance fraternelle. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis, Hélène Keller et la surdie cécité.
Le sculpteur aveugle qui palpe ton visage. Le sculpteur aveugle a des éclairs dans les yeux. Ses mains douces comme des lézards tremblent et frôlent ta nuque. Ses mains douces comme du pain noir. Le sculpteur aveugle a des fourmis dans les mains qui ont trop vu de visage comme le mien, comme le tien. Le sculpteur aveugle a des mains lasses qui s'ennuient de ces formes fadasses.
Dans l'oreille, de mes sur le front, de mon
Sandrine Schwartz, vous êtes linguiste, vous étudiez les moyens de communication chez les sourds aveugles et vous êtes aussi interprète pour sourds et pour sourds aveugles.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'origine, je suis interprète en langue des signes et dans certaines de mes prestations, je me suis retrouvée à devoir interpréter pour des personnes sourdes aveugles et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée à leurs moyens de communication, plus particulièrement la langue des signes tactile, qui est une variante de la langue des signes utilisée par les personnes sourdes bienvoyantes et qui est utilisée par des personnes qui sont sourdes aveugles. Donc pour la comprendre, elles posent leurs mains sur les mains de leur interlocuteur qui s'exprime en langue des signes.
Voilà ce que nous dit Sandrine Schwartz. Évidemment, ça nous intrigue. Comment peut-on, quand on est à la fois sourd et aveugle, communiquer par quels moyens? Eh bien, c'est ces moyens-là qui ont été développés avec Hélène Keller, avec Hans, grâce à la science et l'intuition et l'esprit d'invention d'Anne Sullivan, même s'il y a eu d'autres recherches qui ont consisté à traduire l'objet en signe, c'est-à-dire faire un signe pour un objet, qu'il y ait un signe pour un objet, jusqu'à ce qu'il y ait par la suite, évidemment, un signe pour un objet conceptuel. Et oui, c'est l'invention de l'écriture. C'est la réinvention de l'écriture qui concerne évidemment toute l'histoire de l'humanité, de notre humanité, qui là se refait, se reproduit et se réinvente à chaque fois qu'on est en présence de ce handicap. Sandrine Schwartz.
Pour vous, linguiste qui étudiez les moyens de communication des sourds aveugles, Hélène Keller, c'est qui?
Alors, Hélène Keller, c'est la sourde aveugle au sujet de laquelle des livres ont été écrits, des films ont été réalisés. Généralement, quand on parle d'une sourde aveugle, on ne connaît qu'elle. Alors que ce soit en France ou à l'étranger, il y a des traces de personnes sourdes aveugles, mais quasiment partout, qui, certes, n'ont pas eu un doctorat, certes, n'ont pas atteint la renommée internationale que Hélène Keller, mais ont eu des vies tout à fait trépidantes, passionnantes, ont fait preuve de stratégie pour rebondir par rapport à leur surdicécité, pour apprendre à communiquer avec leur entourage et à vivre leur vie de personne. Mais oui, il est certain qu'Hélène Keller n'a pas été la première sourde aveugle instruite aux États-Unis. Il y en a eu au moins deux autres, qui étaient Laura Bridgman. Donc ça a été la première sourde aveugle, si on peut dire, instruite aux États-Unis. Elle est née en 1829. Et elle, c'est une maladie qui l'a rendue sourde aveugle à 2 ans. Et elle n'a pas perdu que l'audition et la vue. Elle a également perdu le goût et l'odorat. Et elle a été éduquée dans une école d'aveugles, par des lettres en relief qui lui ont été mises dans la main par l'alphabet dactylologique. C'est justement par la présence de Laura Bridgman dans l'école de Boston que Annie Sullivan, qui a été l'institutrice d'Hélène Keller, a appris l'alphabet dactylologique. Donc toutes ces vies sont imbriquées de toute façon. De manière contemporaine à Hélène Keller, en France, il y a eu une éducation aussi pour les sourds aveugles. Donc il y avait tout un établissement qui les recevait de manière assez large. Et c'est dans cette institution qu'on a trouvé les premières traces de la présence d'une sourde aveugle. Dans un document, il est dit que les messes étaient dites oralement pour les aveugles, signé pour les sourdes, et qu'il y avait une sourde aveugle à qui une sourde retransmettait tout dans la main. Donc c'est la première trace. Mais après, il y a eu toute cette tradition d'éducation des sourdes aveugles, avec les célèbres sœurs Marie et Marthe Hurtin, qui elles étaient sourdes aveugles de naissance, qui ont été prises en charge toutes les deux dans cette école. Et donc Marie Hurtin, elle, a appris la langue des signes, a appris des alphabets en relief, connaissait la dactylologie, savait taper à la machine, savait prendre un crayon et écrire sur une ardoise en lettres visibles pour toute personne sachant lire. Il y a également une autre sourde aveugle qui s'appelle Anne-Marie Poyet, qui a eu aussi une destinée très triste. C'est-à-dire qu'elle a été prise en charge à peu près au même âge que toutes les sourdes aveugles qui arrivaient à l'époque, 7-10 ans, qui étaient d'une grande intelligence, qui a très très vite appris, mais au bout de 6 ans d'enseignement, les parents ont décidé de la récupérer. Et là, pour elle, ça a été un dénuement communicationnel total, c'est-à-dire qu'elle n'avait personne à qui parler. Elle a trouvé un travail dans une usine où elle faisait des lacets toute la journée, des lacets et des rubans. Heureusement, il y a une de ses camarades de l'usine, voyante et entendante, qui a appris à communiquer un petit peu avec elle, qui lui servait un peu d'interprète. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a périclité.
Quand on regarde l'histoire d'Hélène Keller, on a souvent l'impression que c'est une volonté extraordinaire. Est-ce qu'il faut toujours que ce soit ça, que ce soit la personne qui ait une volonté de s'adapter à son environnement ? Parce que l'environnement s'adapte peu à ces gens-là.
Ça, c'est clair qu'il faut que la personne ait une très très forte résilience, qu'elle ait également le milieu autour d'elle qui se mobilise. Hein. Et oui, concernant le milieu qui ne s'adapte pas, oui, mais ça, ce n'est pas uniquement malheureusement pour les sourds aveugles. Rien que la situation des sourds, déjà en France, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont adaptées pour eux. Il y a des problèmes d'accès à l'information. Un exemple tout simple, la radio. De même, les émissions de radio, par exemple, quand elles sont après accessibles sur Internet, très rarement, elles sont accompagnées d'une transcription écrite. D'ailleurs, j'espère que pour cette émission, vous allez y penser, ça serait bien. Donc, si la personne sourde aveugle a à sa disposition le matériel adéquat lui permettant de transcrire ce qu'il y a sur un écran d'ordinateur, sur une plage tactile braille, pour elle, ça peut être accessible si on pense à rajouter des transcriptions. Mais ça, c'est tout ce qui est technique. Ce qui est également très important pour elle, c'est les aides humaines.
Mais vous, qui êtes traductrice justement pour sourds aveugles, les sourds aveugles font appel à vous pour quelles occasions ? Ils ont besoin de vous pour quelles occasions ?
Ils font appel à moi dans des situations de la vie de tous les jours. Alors, c'est-à-dire si elles ont besoin de se rendre chez le médecin, si elles ont besoin d'assister à une réunion parce que leur enfant entendant est à l'école et que ça ne se passe pas très bien et qu'on a besoin de rencontrer l'enseignante, ça peut avoir lieu au travail. C'est vraiment dans toutes les situations de communication de la vie de tous les jours. Mais quand je travaille avec des personnes sourdes aveugles, je n'utilise pas que la langue des signes comme moyen de communication. C'est-à-dire que bon, je connais le braille, je sais taper rapidement sur une machine à écrire ou sur un ordinateur. Je peux utiliser la dactylologie avec eux et éventuellement la reformulation orale. Hein, parce que certaines personnes sourdes très malvoyantes lisent encore sur les lèvres. Ou alors réarticuler très fort dans un micro HF. Parce que la surdicécité, ce n'est pas qu'une langue, ce n'est pas qu'un moyen de communication, c'est vraiment une multiplicité de moyens de communiquer avec l'entourage.
Je viens de sortir du RER, de la station Ménessy, et je me rends chez Annie Van Espen, qui est directrice de l'association française des sourds aveugles. Elle est devenue sourde et aveugle toute petite à cause d'une maladie génétique, et son mari est également sourd et aveugle. Et pour se rendre chez elle depuis le RER, il y a à peu près 20 minutes de marche à pied. Et elle doit faire toute cette marche avec son mari et leur chien guide, pour pouvoir se déplacer. Avec Annie, on a communiqué par Internet, puisqu'elle peut lire les mails grâce à un clavier assistant braille, un clavier qui est fait à partir de petites pointes qui se soulèvent ou se baissent pour former des lettres en braille. Et donc elle peut lire ou écrire des emails grâce à son assistant braille, on a communiqué comme ça. Mais on ne s'est rien dit sur la manière dont on allait communiquer au moment de notre rencontre. Je ne sais vraiment pas la manière dont on va s'y prendre. Je me suis juste dit que comme elle ne pouvait pas m'entendre quand j'allais arriver, ben j'allais lui prendre la main et puis la poser sur mon visage pour qu'elle sache aussi qu'elle peut me toucher, me prendre le visage si elle veut comprendre. Peut-être si elle veut comprendre ce que je dis. En tout cas, je sais que par mes mouvements de tête, elle pourra comprendre de cette manière si je dis oui ou non. Ça sera déjà ça.
Voilà, on va rencontrer Annie Van Espen, donc, qui est présidente de l'association française des sourds aveugles. Les sourds aveugles seraient entre 6 000 et 6 500 en France. Et donc on va, voilà, on ne sait pas comment faire, mais Annie, Van Espen, on l'espère, elle sait comment faire avec ceux qui ne savent pas comment faire. Au passage, je relève ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Schwartz, c'est que cette émission soit transcrite, évidemment, pour nos amis sourds. Donc si parmi vous il y a des, ce qu'on appelle des goldfinger, vous savez, ceux qui ont des doigts d'or et qui savent transcrire très rapidement, eh ben n'hésitez pas à transcrire cette émission et à nous le faire savoir sur le répondeur de la basse Sylvie Spie au 01 56 40 37 37. On s'empressera de prendre la transcription, ou bien vous pouvez l'adresser sur le site de l'émission en passant par le site de France Inter. Donc, on arrive chez Annie Van Espen.
Voilà, j'ai trouvé le 44, la petite porte bleue. Je vais frapper. Bonjour. C'est moi.
Bonjour.
Bonjour, c'est moi.
Excusez-moi, ma chienne, envoyez parce que vous avez frappé à la porte, je pense.
Oui, j'ai frappé.
Parce que normalement, il faut sonner. On a un appareil spécial pour les sonneries avec des vibrations. Je vais vous montrer. Mettez votre main là-dessus.
Oh, quand ça sonne.
Ma chienne ne dit rien quand ça sonne, mais elle dit quelque chose quand on frappe. C'est bien. Heureusement. Voilà, c'est mon mari. Il est complètement sourd. Tandis que moi, j'entends un petit peu.
Non.
Le mari et la femme parlent par signe.
C'est ça.
Ça va.
Oui, donc, je suis malentendante.
Oui.
Je communique avec les vibrations. C'est pour ça que je ne vois pas du tout.
Ah, mais vous, c'est pour ça que vous
mettez... Mon mari, c'est au contraire. Il entend rien et il voit un petit peu.
D'accord.
Alors, pour la communication, c'est un peu particulier. Il faut écrire dans la main.
D'accord, vous lui écrivez dans la main ? Annie parle avec son mari par signe.
Oui. Mes parents, moi, ma soeur, là-bas, pour m'entendre.
Elle lui fait des signes devant son œil qui voit. Contre sa main et devant son œil. Elle est en train d'étudier la place où on va s'asseoir.
C'est une interview avant de commencer l'enregistrement parce que est-ce que c'est une interview donc avec les questions si j'en parce que des fois si je ne comprends pas je vais devoir écrire dans la main en caractère d'imprimerie voilà. Parce que les caractères en minuscule, c'est difficile à comprendre.
Quelle place Hélène Keller, quelle place a-t-elle pour les sourds aveugles?
C'est pas facile.
Qu'est-ce qu'elle représente?
Qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Hélène Keller représente pour nous une personnalité créée, célèbre par les films Miracle en Alabama que nous avons pu voir autrefois et aussi par ses ouvrages. Il y en a un que j'ai lu mais il y a très longtemps, j'ai un petit peu oublié. Mais c'est une personnalité vraiment formidable pour nous. Elle a beaucoup été motivée pour progresser, pour sortir du silence et de la nuit. C'est important pour nous. bien sûr, elle n'est pas la seule, puisqu'en France, il y a eu aussi des cas d'exception. Mais je pense que l'histoire d'Ellen Keller peut encourager des personnes sur l'aveugle à persévérer. À persévérer dans leur étude, par exemple.
It is not blindness or deafness.
Hélène Keller.
That brings me my death.
Ce n'est pas la cécité ni la surdité qui m'ont apporté mes heures les plus sombres.
It is the attitude that I put men in not being able to speak normally.
Mais la déception de ne pouvoir parler normalement.
Normally, I think how much more good I might have done if I had only acquired natural speech.
Longuement, j'ai pensé combien j'aurais pu mieux faire si j'avais su apprendre à parler normalement.
But
Mais au sortir de cette triste expérience, j'ai pleinement compris l'importance des efforts humains, des ambitions et la capacité infinie de l'espoir.
Vous,
à quel âge vous avez perdu la vue?
Alors, quand je suis née, on ne sait pas vraiment si je suis née avec une déficience visuelle et auditive. En tout cas, pour les 18 premiers mois de ma vie, je paraissais entendre et me paraissais voir. À 18 mois, j'avais commencé à dire deux mots importants puisqu'il s'agit de la désignation de mes parents. Et tout d'un coup, je n'ai plus parlé du tout. C'est à ce moment-là que mes parents se sont posé des questions. Pourquoi j'avais arrêté de parler? Pourquoi je ne parlais plus? Il faut imaginer l'angoisse des parents vis-à-vis d'une telle situation. Et autre chose, mon comportement a complètement changé à ce moment. Avant mes 18 mois, j'étais une petite fille très gaie. Et au moment du changement, je n'étais plus la même. J'étais devenue triste. Je m'éloignais des autres enfants. Donc, ils ont fait part de leur inquiétude aux médecins. À l'époque, il n'y avait rien pour pouvoir savoir ou diagnostiquer. La surdicécité est un problème très mal connu. Encore maintenant, il arrive qu'il y ait des problèmes de diagnostic. Il a fallu attendre mes 5 ans et demi, 6 ans, pour savoir exactement ce que j'avais. Entre-temps, je n'avais pas repris la parole. Et on avait découvert mes problèmes visuels. C'est grâce à mon institutrice que nous avons découvert mon problème visuel. J'allais à l'école dès l'âge de 4 ans. Et mon institutrice était très intriguée par le fait que je ne traçais pas les traits demandés horizontalement, mais obliquement. Et c'est là que s'est posée la question de savoir si je voyais bien ou pas. Et qu'elle a conseillé à mes parents la consultation d'un opticien. On s'est aperçu que mon œil gauche ne voyait pas du tout et que mon œil droit avait environ un dixième. J'ai perdu la vue vers l'âge de 25 ans, progressivement à partir de l'âge de 18 ans. Pour ce qui est de la surdité, mes parents avaient constaté que je ne me comportais plus de la même manière. Au son du klaxon effectué par mon père lorsqu'il rentrait de son travail. Donc, beaucoup de choses les intriguaient. Ils ont tellement insisté auprès du médecin qu'il a frappé dans ses mains derrière ma tête. Et voyant que je n'avais aucune réaction, il a pensé que j'étais complètement sourde, non appareillable. Mes parents m'ont emmené voir un ORL, et c'est là qu'on a vraiment su mon handicap auditif. J'étais malentendante, sévère, mais je pouvais être appareillée, mais pas opérable. Donc, j'ai été appareillée à partir de l'âge de 6 ans et demi, lorsque je suis partie à Paris pour être scolarisée. Parce qu'à l'époque, quand j'étais toute petite, nous habitions dans le Jura. Il n'y avait rien à l'époque pour les malentendants là-bas. Et j'ai appris à parler à ce moment-là.
Il a fallu plus de 4 ans pour connaître votre problème. Il a fallu attendre 4 ans.
Plus, oui. Il a fallu attendre plus de 4 ans. Donc, il a fallu attendre bien des années. Mes parents ont été bien angoissés pendant toute cette période, se posant des questions. Mais il faut dire aussi que je trompais l'impression des personnes parce que j'étais une petite fille très observatrice. Je faisais attention à tout ce qui se passait autour de moi. Donc, ça n'était pas facile de comprendre pour, par exemple, je cite, le médecin était venu voir un de mes frères qui était malade. Il a ouvert sa bouche. Il a demandé à un autre frère d'aller chercher une petite cuillère. Et c'est moi qui suis allée la chercher. Ce qui a trompé le médecin. Il a dit à mes parents, « Vous voyez, elle entend bien, votre petite fille. » Comme j'étais très observatrice, j'avais compris.
Votre histoire ressemble à celle d'Hélène Keller.
Oui, elle ressemble un peu, mais je voyais un petit peu. Hélène Keller ne voyait pas du tout. Donc, elle était quand même plus handicapée. Donc, cela devait être beaucoup plus dur pour elle. Mais je confirme, vu le comportement que j'ai eu quand j'étais petite, après l'âge de 18 mois. Ils font penser que l'on se retrouve effectivement dans un monde noir, un monde silencieux, obscur, même si je voyais un petit peu. Donc, on peut imaginer ce qu'était la vie d'Hélen Keller quand elle était petite. Ce sera qui est vraiment très impressionnant pour moi aussi. Donc, moi, j'ai ma propre histoire. J'ai quand même eu un petit peu plus de chance de ce côté-là. Mais Hélen Keller a eu une énorme chance d'avoir Anne Sullivan, cette personne vraiment fantastique, pleine d'énergie, de détermination. C'est grâce à elle qu'Hélène Keller est devenue ce qu'elle était. Et en plus, une autre chance, c'est qu'elle a toujours été accompagnée par une personne dévouée pour voyager, pour se rendre partout. Ce qui est un peu difficile maintenant pour nous, ce n'est pas le cas.
Dans un silence éternel et muet, je traduis tes regards et lis dans tes sourires, interprétant les mots que tes mains veulent dire, dans ton langage étrange qui semble être un balai. Un émouvant balai que tu règles pour moi, de gestes fascinants qui sont jamais les mêmes, et quand du bout des doigts tu murmures le thème, j'ai l'impression parfois comme entendre ta voix. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon émouvant amour, mon merveilleux amour, mon déchirant amour. Comme pour te parler, je manquais de moyens, près de toi, comme en terre étrangère, ne pouvant me servir d'aucun vocabulaire, à mon tour j'ai appris le langage des mains. Tu ris un peu de moi quand tu vois mes efforts, car je suis maladroit et fais souvent des gaffes. Je n'ai jamais été très fort en orthographe, mais j'ai tant à te dire et je t'aime si fort. Mon amour,
vous savez quelle maladie vous avez, vous savez, vous connaissez le nom de votre maladie? Votre maladie.
Ah. Mm.
Oh, ma maladie. Alors, je suis atteinte du syndrome de Usher de type 2. C'est une maladie génétique. Le syndrome de Usher touche une grande partie des personnes sourdes aveugles. Tandis que pour mon mari, c'est un accident de circulation qu'il a eu peu avant ses 18 ans.
Et il y a combien de sourds aveugles en France? Combien de sourds-aveugles en France ?
En France, nous pouvons compter environ 6 000 à 6500 personnes sourds-aveugles. J'ai commencé à fréquenter des personnes sourds-aveugles à partir de 1985. Auparavant, mes parents et moi, nous ne connaissions pas l'existence d'autres personnes sourds-aveugles. Je me croyais toute seule en France pour être handicapée, de surnécessité. J'ai rencontré mon mari en 1985. Nous nous sommes mariés. Par la suite, il m'a un peu appris la langue des signes qu'il a appris au cours de sa rééducation à côté de Poitiers. Nous ne connaissons pas la totalité de la langue des signes, c'est ça le problème. Mais je signale qu'il y a une chose qui est vraiment bien pour nous, c'est le courrier électronique. Ça, c'est un excellent moyen de communication. Encore faut-il que tous aient un courriel et également qu'ils soient motivés. Parce que souvent, quand on écrit, par exemple, à une administration, souvent on nous dit de les rappeler au téléphone. Donc, c'est difficile, hein. Ils ne comprennent donc pas forcément ce qu'est la surdicité, même si on l'a signalé. C'est pas facile. Hein.
L'association des sourds aveugles, depuis quand elle est fondée ?
L'association des sourds aveugles ?
Depuis quand elle est fondée ? Quelle est la date de création ?
Alors, l'association française de la surdicité, qui est une association de sourds-aveugles, a été créée en fin août 2009. C'est une association qui est uniquement dirigée par des personnes sourds-aveugles. Il y a un conseil d'administration et un bureau, donc il y a des réunions entre sourds-aveugles pour prendre des décisions. Par exemple, cette année, nous avons décidé la création d'un logo pour identifier l'association. Et il vient d'être voté après plusieurs mois de débats entre personnes sourds-aveugles par courrier électronique.
Bravo!
C'est beaucoup de travail, hein, l'association, comme ça. Parce que je fais beaucoup de choses maintenant à l'association. C'est ma vocation. Ouais. Ça, c'est ma vocation. Je l'ai trouvé. Ça, progressivement.
Vous avez quel âge?
Comment?
Quel âge vous avez?
Quel âge? Oh, je suis plus très jeune, mais je suis pas encore vieille. J'ai 52 ans. Bon. Voilà.
Merci à Anne Van Espen et à son mari, Maxime. Anne Van Espen, c'est elle donc qui a fondé la toute nouvelle association française des sourds aveugles. C'était un reportage d'Inès Leroux. Merci à Sandrine Schwartz, Serge Bernard et à tous. Autre chose, n'oubliez pas que nous vous attendons vendredi à la Fête de l'Humanité avec Frédéric Lordon, c'est donc au Parc de la Courneuve, dans le 9-3, pour une émission en direct et en public à 15h. Le studio de Radio France, c'est, donc à la Fête de l'Humanité, c'est sur le plan de la fête, c'est E. 5. On trouve ça très facilement. Et puis à 18h, nous serons au stand des Mutins de Pangée, toujours à la fête de l'UMA. C'est au forum des associations, c'est face au village du Livre. Et sur le plan, c'est plan G5 avec les Mutins de Pangée. Bon, on parlera des médias, on parlera de la basse où j'y suis, puis on parlera du film sur lequel nous travaillons, sur Howard Zinn. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, et sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, je le répète, si parmi vous il y a des gens qui ont envie de transcrire cette émission et celle d'hier, eh bien, ce sera avec plaisir que nous la mettrons en ligne. À la technique aujourd'hui, Élise Christophe et Renan Mahé, Bertrand Chometon et Franck Adhérère ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez, et Grégory Salomonovitch attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.